De retour à Délirium environnemental, deuxième partie. Donc, toujours en revue de l'actualité, revue de presse. Un sujet important, s'il en est, la biodiversité, le maintien de la biodiversité. Il y a un groupe qui fait un travail exceptionnel qui s'appelle l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui dresse entre autres une liste rouge des espèces en voie d'extinction ou des espèces plutôt qui sont menacées. Donc, ils ont remis cette liste-là, donc la liste des espèces en voie de disparition ou menacées dernièrement. Qu'en est-il, Patrick Bonnet, t'as lu ça pour nous?
Ça fait peur, encore une fois. UICN, je vous rappelle que c'est plus de 1000 et quelques organisations. Eh bien, cette liste rouge des espèces qui se retrouvent qui ont un risque d'extinction pour ces espèces-là, eh bien, elle comporte 15 589 espèces. 15 589 espèces. Faut-tu que je le répète encore?
Oui.
15 589 espèces et on ne fait rien, ça l'empire. La dernière fois, on l'avait fait en 2000, ce rapport-là, donc on a regardé justement l'évolution en 2000 et 2004, et on s'est rendu compte que ces espèces-là, et juste pour vous remettre dans votre tête, qu'on parle d'espèces comme ça, comme si ça n'avait aucune valeur et ça ne touchait pas, c'était loin de tout, eh bien, ils ont une valeur énorme, ces espèces-là, entre autres pour nous. Juste vous rappeler que plusieurs de ces espèces-là, entre autres végétales et animales, vont nous fournir des aliments, des médicaments, du combustible, des matériaux de construction contribuent à filtrer l'eau, à décomposer des déchets, à produire les sols, à féconder les plantes cultivées, et blablabla, je pourrais vous en dire, il y a tellement des effets synergiques qu'on comprend même pas comment ça fonctionne, qu'on s'amuse à soustraire des espèces. Ça fait 785 espèces qu'on soustrait depuis 1500. En fait, c'est des calculs comme ça, aléatoires, incomplets, je devrais dire, parce qu'on connaît pas l'ensemble des espèces qu'il peut y avoir sur la planète. Donc, on en regarde seulement quelques-unes qu'on monitore, comme ça, si ça se dit monitor. Et c'est très, très épeurant. Je vais juste vous donner, genre, vous allez complètement tomber sur le dos. Écoutez, la moitié des tortues d'eau douce sont menacées. Un oiseau sur 8 est menacé. Un mammifère sur 4 est menacé. Un amphibien sur 3 est menacé. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, mais entre autres, les amphibiens sont dépendants de l'eau douce. Et le déclin une espèce sur 3, c'est assez catastrophique. Eh bien, c'est interprété, entre autres, comme un signal d'alarme pour ce qui est de l'état de l'eau douce sur la Terre. Juste dire qu'il y a un nouvel indice qui est intéressant, on l'appelle l'indice rouge, qui permet justement de voir l'évolution des espèces. Sont-ils en voie, parce que c'est trois paliers, voie de disparition, extinction ou en danger. Et ça nous permet de savoir si ça évolue au lieu juste d'avoir un statut fixe. Donc, allez voir sur le site de l'UICN, on va le mettre en lien sur notre site web. Très intéressant, plein de photos. Et si ça vous convainc pas de faire un petit peu attention, juste vous rappeler entre autres que c'est en raison de la disparition des forêts, la disparition des milieux humides, de l'être humain, c'est la faute de l'être humain, je voulais.
Ben merci, je te coupe la parole là-dessus parce que justement, ça va être notre prochaine nouvelle, le temps file et qu'on a beaucoup de choses à dire. Entre autres choses, oui, il y a la déforestation qui est responsable, la perte de milieux naturels pour ces animaux-là, mais il y a également l'utilisation qu'on en fait. Je profite de l'occasion pour souligner le fait qu'en Chine, vous savez, la Chine, ce grand pays magnifique, mais parfois inquiétant, l'ours noir du Tibet et le tigre de Chine sont deux espèces menacées d'extinction. Là-bas en Chine, donc ils sont les deux là-bas, et entre autres parce que le pays le plus peuplé du monde continue d'utiliser la bile des ours et les os de tigre comme produit pharmacopée. Donc on estime qu'il y a environ 9000 ours de toute espèce confondue qui sont élevés dans des petites cages et dans lesquelles on a plugué des cathéters qui sont plantés dans la vésicule directement, la vésicule biliaire, pour prélever leur bile qu'on vend. Alors en plus d'être horrible et cruel, mais il y a personne vraiment qui se mobilise, puis la communauté internationale continue de faire du commerce avec la Chine. Alors, si on veut commercer avec la Chine, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait s'entendre sur un certain nombre de principes et de valeurs? Ah, merci, ça va mieux, j'ai passé mon message. Autrement, il y a l'Amazonie aussi, il y a une étude inquiétante qui est sortie, on a trouvé ça sur Environmental News Network, merci, INN. Donc, malgré ce que le gouvernement brésilien affirmait, lui, ce qu'il disait, c'est que seulement 16% de l'Amazonie brésilienne avait été déforestée, donc les forêts avaient été coupées en Amazonie brésilienne. Une récente étude qui a utilisé des photos de satellites pour caractériser les lieux, la forêt, donc cette étude-là, plutôt, elle, affirme que 47% de la plus grande jungle au monde aurait été déjà, occupée ou utilisée par les humains, que ce soit pour l'industrie de la déforestation en particulier, mais aussi par les hommes pour habiter les lieux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait déjà 70% de l'Amazonie brésilienne qui avait été défaite, qui avait été transformée en terre cultivable, donc brûlée, défrichée, etc. Donc, l'Amazonie, poumon de la planète, est en perte de vitesse et ça recule. ni incroyable de la biodiversité, peut-être en voie de disparition au complet. Pour revenir ici au Québec, on a de belles forêts et il y a des chicanes à savoir qui les gère. Est-ce que c'est les compagnies forestières à qui on vend des CAF à 2$ pour 25 ans? Là, ça a l'air que les contrats d'approvisionnement forestier, ou non, mais il y a deux A.
D'aménagement et approvisionnement.
Oui, d'aménagement et d'approvisionnement forestier pour 25 ans. Donc, nous, on donne nos ressources comme ça, on trouve ça belle fun. Mais les Autochtones du Québec, eux, se sont réveillés et veulent pouvoir assurer l'administration des forêts.
Bien, comme pour la question de l'énergie, les Autochtones ont décidé de glisser leur 30 sous dans tout ça. En fait, il y a eu une assemblée des Premières Nations la semaine passée et on a des chefs des Premières Nations qui sont en train de nous dire qu'ils veulent des modifications en profondeur à la loi sur les forêts. Et là, on s'entend pour dire là-dedans qu'on voudrait une considération spéciale pour les Premières Nations. Et bon, que cet avis-là des Premières Nations doit être pris en amont de toutes les décisions relatives à l'aménagement. Et là, on parlerait même aussi d'avoir certaines redevances sur l'exploitation forestière.
Ben merci beaucoup, ça va être intéressant. Ça serait intéressant de savoir si eux vont réussir à faire ça. Ça va être intéressant qu'on pense à nationaliser la forêt, hein, mais c'est pas le genre de logique qui prévaut présentement.
La commission Coulombe va être déposée dans 2 semaines et ça va être l'occasion de voir un peu tout ce qui se trame dans ce domaine-là, un peu obscur.
Ben, bien entendu. Coulombe qui fait l'étude sur la gestion de la forêt au Québec.
Merci Patrick.
Bravo, ben ça sera intéressant et comptez sur nous. Nous serons là pour suivre ces débats-là pour vous et de vous parler des conclusions de cette commission. Au retour, on vous parle d'OGM, un pas en avant, deux pas en arrière. Environnemental, le magazine d'information en environnement. Je vous l'annonçais tout à l'heure, OGM, un pas en avant, deux pas en arrière. Ben, il semble que l'Allemagne a fait un grand pas qui pourrait peut-être nous inspirer.
Et tellement intéressant. Je sais pas si vous vous souvenez, juste au Canada, avant d'aller en Allemagne, cette histoire de Percy Schmeiser qui s'était fait actionner par une compagnie, soit Monsanto, justement parce qu'il avait sur son terrain des cultures qui contenaient des semences OGM, en fait, des cultures qui contenaient des traces de gènes OGM à l'intérieur. Non, pas de gènes, moi. Ça marche. Des cultures génétiquement modifiées, alors qu'il disait que lui, il les avait pas plantées et que c'était une contamination qui venait d'ailleurs.
La Cour suprême avait d'ailleurs donné raison à la compagnie Monsanto, ce qui était absolument aberrant à mon sens, mais bon, je suis pas juriste, mais qui avait donné raison à Monsanto en disant, hey, écoutez, il y avait des semences transgéniques sur votre terre, sans penser que le vent ou la contamination...
Exactement, mais en Allemagne, brillants qu'ils sont, ils ont décidé de passer justement un principe de responsabilité au Parlement. Ce principe-là dit que les producteurs et les cultivateurs d'organismes génétiquement modifiés vont être responsables justement des dommages économiques à quiconque a des cultures biologiques et ne pourraient pas les vendre parce qu'ils contiennent des OGM. Et ça, c'est super intéressant parce que justement, ça va être ces cultivateurs-là d'OGM qui vont avoir la reconnaissance s'il y a une contamination puis qu'on peut pas en vendre. Ils vont être obligés de payer aux cultivateurs biologiques. Puis s'ils sont pas capables de dire qui est exactement le responsable de la contamination. Donc, d'où vient exactement la contamination des organismes génétiquement modifiés? Le vent, oui, mais vous savez, le vent, ça se promène partout. Donc, ils vont simplement regarder les gens alentour. Ils vont dire, ben, écoutez, arrangez-vous ensemble, faut que tout le monde paye en bout de ligne. Fait qu'ils vont diviser ça à travers le tout. La Commission européenne, par contre, veut faire annuler ça par la Cour de justice européenne. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver.
Ben, merci beaucoup. C'est une nouvelle qui est très inspirante, très importante. Pendant ce temps, le reste de l'Europe, ben, pendant ce temps, ici au Québec et au Canada, on continue de branler dans le manche sur la question des OGM. D'autres, le principe de précaution, ouais, on connaît pas ça. Pendant ce temps, le reste de l'Europe, qui avait pourtant imposé un moratoire sur les cultures GM, est en train de changer son fusil d'épaule et présentement tergiverse, Hugo.
Moratoire depuis 1997. Et pourtant, oui, en fait, le moratoire, on a mis fin au moratoire cette année. Et depuis ce nouveau vent, en fait, il y a trois différents produits génétiquement modifiés, des graines génétiquement modifiées, dont on a accepté l'entrée dans les pays de l'Union européenne. Les pays peuvent quand même, on peut le voir dans le cas de l'Allemagne, proposer différentes législations quant au contrôle de leur usage, mais c'est à l'Union européenne elle-même de décider si ces décisions-là, si en fait on va pouvoir ou pas cultiver.
Okay. Non. Okay.
Oui.
Ben, sais-tu, je pense que ça va faire le tour.
Je
tourne la page. Ben, ça fait le tour du dossier. Donc, on garde tout ça à l'œil ici encore au Québec. Je le répète, hein, on n'a absolument rien fait sur les cultures GM. Il paraît peut-être que l'UPA commence à y penser un peu, mais ils ont bien d'autres problèmes à régler avant de pouvoir s'attaquer sérieusement à ce problème-là. Ça me fait juste penser que le plan de développement durable, à la lecture que j'en ai faite, celui de M. Mulcair, l'avant-projet de loi, ne contient même pas le mot principe de précaution.
Oui, en fait, c'est un des 14 principes.
Ah, magnifique, merci. Je l'ai sauté, celui-là, j'imagine, sur les 14.
Section 5.1. Point quelques.
Wow! Patrick, tu vas devenir notre expert de l'avant-projet de loi. Je suis contente d'entendre ça. Bon. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé de ces nouvelles sur les OGM. On s'en va en musique et au retour, ça va être les petites vites. On est de retour à Delirium environnemental. On va compléter la revue de presse, la revue de l'actualité, comme d'habitude, par les petites vites. En bref, cette semaine, messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur l'environnement?
Sortez votre éolienne, sortez votre panneau solaire, mettez ça sur votre toit. Hydro-Québec va accepter l'autoproduction. Vous allez pouvoir produire de l'électricité et diminuer votre bill d'électricité de façon annuelle. Magnifique, bravo, Hydro-Québec.
Hey, bravo, vraiment, production autonome. Ça va vouloir dire peut-être que Hydro-Québec va vous payer des redevances.
Non. Bon, ils vous paieront pas, bazar, ils vont annuler.
Hey, non, mais si vous voulez enregistrer les Québécois et Québécoises, donnez-nous l'argent pour notre électricité. Hugo?
L'OMS est pas mal convaincu, mesdames et messieurs, ce sera la fièvre aviaire qui va tuer beaucoup de monde dans les prochaines années. En fait, on doute d'être capable de vraiment créer un vaccin efficace, surtout lorsqu'on sait que cette maladie-là peut être propagée par des oiseaux qui migrent à toutes les années.
Alors, on sait que l'OMS est l'Organisation mondiale de la santé. C'est triste. On sait peut-être aussi que c'est dû, entre autres, aux méthodes de production, tellement horrible. Comment peut-on produire des animaux? Des téléviseurs biodégradables, saviez-vous? Ben, paraît que ça s'en vient parce qu'il y a une recherche conjointe des géants de l'électronique Mitsubishi et Sony, qui a mené donc à la mise au point d'un plastique biodégradable. Il me semble que ça fait souvent qu'on entend parler de biodégradable, de plastique biodégradable. On peut-tu arrêter d'en parler puis se mettre en vente de vrai, là?
Appel à tous, appel à tous! Greenpeace vous convie au boycott de Kleenex. Boycottez Kleenex qui utilise des arbres de la forêt boréale pour mettre dans des mouchoirs. On coupe des arbres pour se torcher. Boycott de Kleenex. Visitez notre site radiodelirium.net.
L'Angleterre fait face à toutes sortes de militants pour les droits des animaux et ils sont de plus en plus agressifs. On a donc décidé de faire une loi contre les militants qui étendent les activités à la vie privée des maisons. Et là, on parle de chercheurs qui se sont fait brûler leur voiture, qui se sont fait battre et ainsi de suite. Là, je veux dire, c'est un domaine vraiment agressif. Est-ce que cette législation-là a vraiment besoin d'être faite ou est-ce qu'on devrait plutôt reconsidérer et puis amener devant le Parlement tous les débats sur l'usage des animaux dans la science.
Merci beaucoup, parce qu'on sait que la stratégie des militants là-bas, anti-douleur aux animaux, avait décidé plutôt que de s'attaquer au laboratoire comme tel, de s'attaquer aux actionnaires et aux chercheurs qui acceptaient de faire ces recherches niaiseuses sur « Est-ce qu'un shampoing dans les yeux, ça fait mal? » Laisse-moi te le dire, mon gars, ça fait mal. Pendant ce temps, Porsche, une voiture électrique, hey, bonne nouvelle, ben oui, Porsche s'intéresse de très près à la technologie des moteurs hybrides. On est content pour ceux qui ont de l'argent.
Ça n'a rien à voir avec le Venezuela qui vient d'annoncer un véhicule à énergie solaire à faible prix. Ce sera la compagnie, l'entreprise Deta qui va fabriquer ça. Imaginez-vous donc qu'ils en font même pas encore des véhicules. Et l'entreprise Deta qui fait des véhicules. On a tout ça, les entreprises Deta ici.
Mais pourquoi se casser la tête à faire des nouveaux véhicules électriques alors que les Texans nous disent qu'on a plein de trous vides où il n'y a plus de pétrole dans le sol et c'est là qu'on peut pomper tout le carbone? Bonne idée, mauvaise idée, pensez-y bien.
Parlant de trous vides, qu'est-ce que tu penses qu'on veut faire avec nos déchets nucléaires? Eh bien, on va mettre ça dans le bouclier canadien. Creusez-moi un trou, on est en train, on fait grosse affaire. On veut faire des études dans 30 ans, on va être baisé, on ne saura plus quoi faire. Soit qu'on mène un bouclier canadien, on va peut-être les envoyer vers le soleil.
Ah ouais? Ah ouais?
N'importe quoi!
Je le dis, c'est vrai.
Savez-vous ce qui se passe à Beyrouth? Eh bien, on a une bande d'écologistes qui ont décidé de faire un beau gros sapin de Noël plein de vidanges en plein milieu de la ville pour faire des pressions sur le gouvernement. En fait, les sites d'enfouissement sont pleins à craquer.
Ah ouais, ça c'est à Beyrouth, sais-tu qu'est-ce que l'action terroriste socialement acceptable fait à Montréal, au Square Berry, le Carré Berry? Eh bien, ils remplissent les arbres de sacs de papier vivants plastique, c'est ce que je voulais dire, parce qu'on en utilise 18 milliards par année, mesdames, messieurs, 18 milliards!
Hey, je m'excuse de te couper, mais en cette période du temps des fêtes, c'est encore plus le moment de se souvenir que des sacs en plastique, c'est criminel, faut faire attention à l'utilisation qu'on en fait, les éviter d'en prendre le plus possible. Si vous savez que vous allez au magasin, apportez donc votre petit cabas, votre petit sac en jute. Me semble, ça serait pas pire.
D'ailleurs, l'épicerie verte qui a lieu au Québec où ils vont diminuer leur emballage. Félicitations à M. Claude Villeneuve, des éco-conseillers de l'Université du Québec à Chicoutimi.
Hey, M. Claude Villeneuve, bravo. Eh bien, on va compléter en parlant de la soirée encore d'Au Secours. Ça s'appelle Au Secours des masses, la privatisation, partenariat public-privé, une supercherie, c'est une question. La soirée sera animée par M. Raoul Duguay. Il y aura plein d'autres personnes comme M. Michel Chartrand, allez le voir, ça vaut la peine, mais plein d'autres gens. Donc ça, c'est le lundi 6 décembre, anniversaire des 14 victimes de la Polytechnique. Donc, le lundi 6 décembre à 19h à l'Université du Québec à Montréal et c'est gratuit. Hey, c'est déjà ce qui termine la revue de presse, la revue d'actualité pour cette semaine. Au retour, on vous en parlait la semaine passée, mais là, on a réussi enfin à le rejoindre. On parle avec un biologiste qui s'inquiète des méthodes utilisées pour caractériser les sols humides dans le coin de Longueuil. Au retour. Et voilà, donc de retour à Délirium environnemental. Un petit dossier de fond, il y a une question qui a été soulevée la semaine passée, entre autres dans Le Devoir, par qui d'autre que M. Louis-Gilles Francaire. Il nous apprenait qu'il y a trois scientifiques de renom qui ont attaqué la crédibilité du bilan des milieux humides dévoilé récemment par la ville de Longueuil. Bilan qui avait fait accepter par M. Thomas Mulcair la construction de condos dans un marais. Bonne idée, il me semble. Moi, j'aimerais ça avoir un condo dans un marais. Bref, on a réussi à rejoindre ce monsieur-là, donc qui est un des trois scientifiques qui critiquent le bilan proposé. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il critique l'approche méthodologique qui a été utilisée pour caractériser les lieu humide. Selon lui, c'est une approche qui est naïve, voire dangereuse. En fait, je lui ai demandé pourquoi plus tôt aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, l'étude qui a été remise par le ministère de l'Environnement, en fait, qui a été utilisée pour caractériser les milieux humides de Longueuil, vous paraît inadéquate. En fait, vous m'avez dit préalablement que, d'après vous, c'était une méthodologie qui était naïve, voire dangereuse. J'aurais aimé savoir pourquoi, à votre sens, c'était pas adéquat comme façon de procéder.
Ben, pour expliquer un petit peu aux gens comment qu'on fait ça, on donne une espèce de valeur écologique à chacun des milieux humides. Puis pour faire ça, on leur donne une pondération. On établit une pondération de 0 à 100. Hein, comme on donne une note, c'est un examen. Puis on donne certains points à la superficie, par exemple. Plus un milieu humide va être grand, plus on va lui donner de points. La végétation, c'est vraiment s'il y a des espèces menacées, on va lui donner des points. Et comme ça, on va faire ça pour chacun des milieux humides sur une espèce de pondération. Hein? Puis après, on va arriver avec un pointage. On va arriver avec des milieux humides qui ont 60 points, d'autres 40, d'autres 90. Et par la suite, on va établir, et ça c'est le côté encore plus dangereux, on va établir un seuil. On va dire, ben ceux qui ont plus que 50 points valent la peine d'être protégés, ceux qui en ont moins valent moins la peine. Bon. Faire ça d'abord, c'est faut être très, très prudent dans la pondération qu'on met. Hein. Est-ce qu'on met 10 points sur la taille? Est-ce qu'on en met 20? Bon, c'est évidemment sur des réflexions qu'il faut que les biologistes fassent. Puis par la suite, ben le seuil à déterminer, vous comprenez que ça, c'est un seuil qui est un peu presque aléatoire. On dit, bon, ben c'est plus que 50 points, on va les protéger, mais pourquoi pas plus que 40, plus que 20, plus que 70? Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de décisions qu'on prend quand on fait ce genre de méthodologie-là qui sont importantes, mais qui relèvent un peu des fois du... de l'aléatoire, ou vous prenez des décisions qui ne sont pas nécessairement basées sur la science. Maintenant, c'est correct de le faire, il faut le faire, puis je pense que ça peut être un guide intéressant. Mais il y a deux choses. D'abord, il faut que les données qui servent à mettre la pondération soient très, très solides, ce qui n'est pas le cas dans le cas de Longueuil. C'est-à-dire que, de toute évidence, il y avait un manque de données flagrant. On a pris des données à la fin de l'été sur peut-être des espèces qu'on aurait dû voir au début de l'année. Donc déjà là, la pondération déjà est pas très bonne. Mais en plus, cette décision-là est dangereuse parce que des fois, elle nous amène à faire des décisions qui sont complètement mauvaises. Puis plutôt que d'y aller dans les détails, je vais vous donner un exemple. Mmh. Imaginons que dans la région de Longueuil, il y avait une tourbière magnifique, 1 km², jamais perturbée par l'homme. Hein, je dis tout de suite que ça n'existe pas, mais c'est un cas hypothétique. Et maintenant, on prend une tourbière qui est un écosystème en santé, une intégrité écologique parfaite, une biodiversité exceptionnelle, hein, beaucoup de plantes indigènes, de plantes carnivores intéressantes. On mettait 20 espèces végétales rares, hein, ce qui est pas réaliste, mais on va y aller pour notre cas hypothétique. Eh bien, selon les critères, moi, si je suivais les critères qu'eux ont utilisés dans la méthodologie, ben j'arriverais à une tourbière qui aurait un indice de qualité qui est en bas de 50%. Donc, selon eux, qui serait peut-être une milieu humide qui ne serait pas protégée. Vous voyez qu'une pondération comme ça, ça ne peut pas inclure tous les cas particuliers. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser de façon très prudente comme guide. Hein, on peut se guider pour dire, mais regardez, là, ces milieux humides-là ont peut-être une valeur plus grande, on va aller approfondir. Ceux-là qui ont une valeur un peu plus faible, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis une autre chose aussi que cette méthodologie-là, puis ce genre de pondération ne tient pas compte, c'est que on va enlever des points, par exemple, si un milieu humide est perturbé, des choses comme ça. Puis là, on va prendre aujourd'hui une décision là-dessus. On va dire, bon, mais puisque cela est perturbé, elle a perdu des points, on peut faire du développement. Donc, on prend aujourd'hui une décision qui est pour toujours. Mais un milieu humide, ça se restaure. Il y a de la restauration qui peut se faire. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, un milieu humide, qu'on fait perdre des points pour X raisons, ben si on était sérieux et on voulait en faire un milieu naturel de grande valeur, ben ça serait facile d'y arriver avec la restauration.
Donc, dans le cas qui nous intéresse à Longueuil, pour ce qui est de l'autorisation de construction qui a été émise par le ministre de l'Environnement, M. Thomas Mulcair, comment est-ce que la méthodologie aurait pu être améliorée?
Ben d'abord, vous parlez d'un peu de quelque chose de différent, parce que ça, c'est dans un cas précis, ils ont établi une permission. Mm-hmm. Dans le cas du rapport, lui, se voulait d'évaluer tous les milieux humides de la région de Longueuil.
D'accord.
Dans le cas particulier que vous me présentez, je le connais pas.
Mm-hmm.
Mais dans le cas de tous les milieux humides de Longueuil, je peux vous dire que d'abord, il aurait fallu probablement faire une étude qui s'échelonne sur plus qu'une fin de saison.
Mm-hmm.
Ça, c'est certain. Donc, aller chercher des meilleures données. Puis aussi, y aller très prudent. Ne pas mettre une espèce de seuil à 50 pour dire au-dessus de ça, on protège, puis en-dessus de ça, on protège rien. Servons-nous des données qui ont été récoltées pour examiner plus en profondeur, puis faire un jugement qui est plus juste, plus cas par cas, pour ne pas laisser tomber par hasard des milieux humides qui seraient à protéger.
Autrement, dans le domaine de l'environnement en général, on utilise souvent ce genre de représentation de l'état des lieux biogéophysiques.
Ouais.
Donc, de façon générale, j'imagine que les critiques que vous émettez en regard de cette méthodologie qui a été utilisée cette fois-ci peut s'appliquer à d'autres types d'approches qui utilisent des indicateurs pour fixer des valeurs à des écosystèmes.
Oui, absolument. En fait, tout ce genre d'analyse-là, je pense, à mon avis, ne devrait toujours être que des guides. De pas seulement se baser là-dessus. Parce que, effectivement, toute pondération de ce genre n'est pas parfaite. Ne pourra jamais l'être. Et dans ce cas-ci, comme je dis, dans le cas qui nous concerne, je la trouve dangereuse. Je peux vous donner un autre exemple. Et c'est une pondération qui est très utilisée. Vous avez raison, c'est pas juste la ville de Longueuil qui l'a utilisée, mais à d'autres endroits, on met beaucoup, beaucoup de points sur les espèces rares.
Mm-hmm.
Puis, en plus, on met beaucoup de points sur les espèces. Vous savez, la loi sur les espèces rares au Québec, c'est qu'on a une liste de toutes les espèces qu'on pense être très peu communes ou rares. Et ça s'appelle la liste des espèces susceptibles d'être menacées. Donc, ils n'ont pas de statut légal de protection. C'est juste une liste de plantes susceptibles d'être rares.
Mm-hmm.
Et ensuite, il y a une équipe qui étudie le cas par cas. Et qui, par la suite, si on juge qu'une espèce, oui, est très menacée, oui, on veut lui donner un statut légal de protection, là, ensuite, elle passe à un niveau supérieur et on a dit, elle est menacée. Et ça, il y en a beaucoup moins, évidemment. Il y en a très, très petit nombre.
On fait des trucs de corps, nous la chaîne,